Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour notre nouveau podcast Super Physique. Je suis aujourd'hui avec Mathieu alias Pedro Dark du forum Super Physique.
Salut tout le monde, salut Rudy.
Salut, donc Mathieu était intimidé à l'idée de participer, donc j'espère que ce n'est pas pour ça que vous ne proposez pas vos candidatures pour participer. Donc c'est parti Mathieu, à toi de jouer.
Par les questions de l'actualité, alors j'ai vu qu'il y avait le nouveau livre de Julien Denessin intitulé L'assiette de la force.
Donc voilà, j'ai vu que, moi aussi j'ai vu ça aujourd'hui ou hier, que Julien Venesson, donc notre membre de la team Superphysique, donc qui avait déjà écrit le livre La nutrition de la force, donc là sortait en partenariat avec Christophe Bonnefond, donc c'est un culturiste d'assez bon niveau, donc qui participe dans les catégories Men's Physique, je crois, si je me souviens bien, donc qui sort L'assiette de la force, donc en fait c'est, donc, j'ai trouvé le sommaire pour vous sur internet. Donc rapidement, ça reprend toute la base de l'alimentation du sportif. Donc rapidement, manger pour prendre du muscle, comment perdre de la graisse, comment gagner de la force, comment maximiser les bénéfices de l'entraînement, l'indice glycémique, le cholestérol, ce qu'il faut savoir sur l'alcool, les édulcorants et compagnie. Donc déjà, c'est déjà pas mal complet. Et après, on retrouve, donc à vue d'œil, là, sans compter vraiment, une centaine de recettes. Donc je pense que ça va vraiment être sympa en plus, donc c'est un livre qui va toujours coûter dans les 15-20 euros. Et donc, comme vous le savez, en tant que pratiquant de musculation, nous ne sommes pas habitués à manger avec très bon goût. Donc là, je pense que ça va être vraiment sympa d'avoir un livre qui reprend des recettes. Et donc pour chaque recette, en fait, il y aura, si j'ai bien compris ce qu'avait marqué Julien, donc il y aura l'apport calorique, le nombre de protéines, de glucides et de lipides. Et donc on pourra adapter en fait dans sa diététique, les recettes, et les introduire facilement. Donc normalement, ça sort le 6 décembre, donc ça fait dans 3 semaines. Donc on a hâte que ça sorte, parce que il n'y a aucun doute que je vais l'acheter. on va essayer de manger bon, si c'est bon, mais bon. Donc par exemple, je donne des exemples de recettes qu'il y a. Donc pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a? La génoise protéinée. Bon, ça a l'air bon au goût. Avec le nom, qu'est-ce qu'on a? Les recettes de plats. Poulet à l'ananas, on a quoi? Les nems, thon, courgettes, la pizza blanche au saumon, le cheeseburger hypoglucidique. Bon, ça donne envie aussi.
Les gâteaux protéinés.
Voilà, et il y a même des recettes d'accompagnement, donc c'est marrant, il y a les poivrons à la marocaine, tomates à la provençale, enfin bon, ça a l'air d'être un livre qui va vraiment être vraiment sympathique, quoi.
J'ai vu que tu faisais des recettes sans gluten et sans lactose.
Ouais, bon. Bah en plus ouais, bah donc ils ont pensé vraiment à tout le monde, donc il y a même des recettes de sauce bolognaise maison, marinade pour volaille, donc c'est vraiment une bonne idée, je trouve que ça manquait un peu dans le paysage des livres destinés au monde de la musculation, donc vraiment une bonne idée. Et donc je voulais aussi, comme on en a parlé avec Mathieu en fait avant le podcast, donc il y a eu, pour ceux qui suivent pas trop, il y a eu la biographie d'Arnold Schwarzenegger qui est sortie. Donc en tant que fan de muscu, je me sentais obligé de lire le livre. Et donc tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter ont reçu mon avis là-dessus. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Outre l'aspect musculation qui est quand même bien présent dans les 200 premières pages, on y voit vraiment toute la vie d'Arnold avec ce qu'il ressentait, sa positivité, donc quand tu lis le livre, en fait, t'as vraiment envie de toi aussi te lancer et de réussir, quoi. Donc c'est vrai, et c'est le genre de livre que j'aime bien, et donc c'est vraiment un livre que je vous conseille aussi. Pareil, ça coûte une vingtaine d'euros, par contre là c'est un sacré pavé, ça fait 600 pages, mais ça se lit tout seul, quoi, c'est vraiment, ça se lit bien, et donc faut pas avoir peur par le nombre de pages, c'est vraiment super intéressant, et donc on y voit par même des photos inédites d'Arnold à 15 ans, quand il s'entraînait au bord du lac, ou des trucs vraiment sympathiques, quoi. Il n'y a vraiment pas de tabou dans le livre, quoi. T'as acheté le livre, Mathieu?
Non, je suis allé le visionner un peu hier, j'ai vu qu'il parlait de quelques anecdotes en classe où il badait un peu sur ses professeurs qui soulevaient 190 kilos, des petits trucs sympathiques comme ça, et je pense que pour la motivation et s'identifier à une personne comme ça peut être intéressant.
Ouais, s'identifier, je sais pas, mais prendre exemple, en fait, c'est toujours, moi c'est toujours ce que je cherche avec ces biographies, donc voilà, donc je vous conseille la biographie d'Arnold sans hésiter, et donc là, sans prendre de risque, je pense que je peux vous conseiller l'assiette de la force, qui sera, à mon avis, un super livre aussi.
Ouais, la suite de la nutrition.
Voilà.
ensuite, on va poursuivre avec les questions d'entraînement. Alors, on avait une première question qui était s'entraîner chez soi, est-il efficace?
Ah, donc, je trouve que c'est une bonne question parce que c'est vrai que sur les forums, en fait, on est beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'entraînent chez soi. Et moi-même, j'ai commencé à m'entraîner chez moi, donc avec tout simplement un banc de musculation tout simple, avec repose barre intégré, une grande barre d'1m75, des poids, deux haltères. Et donc, est-ce que c'est efficace de s'entraîner chez soi? La réponse est oui, mais à condition de s'équiper au fur et à mesure. Au départ, c'est sûr que c'est efficace de s'entraîner avec des barres et des haltères, et plus on progresse, plus il va falloir de matériel. En fait, par exemple, je reprends mon exemple au début, tout simplement, au départ, donc j'avais le banc, les repose-barres intégrés avec la barre, donc je faisais du coucher, des bras, mais je pouvais pas faire de jambes, par exemple. Le repose-barre ne montait pas assez haut, ou je pouvais pas faire de barre fixe, pour le dos j'étais limité au rowing. Donc petit à petit je me suis équipé, donc avec une barre fixe. Donc j'ai eu une barre fixe. Après j'ai changé de matériel, j'ai acheté un repose-barre en séparé pour pouvoir faire du squat. Puis après j'ai acheté une poulie haute et poulie basse. Puis ensuite j'ai acheté une presse à cuisse. Donc on voit que petit à petit en fait on est obligé de s'équiper progressivement pour continuer à progresser et pour pas être limité dans sa progression par le choix des exercices. C'est justement un truc que je reproche souvent, que j'avais pas trop conscience avant. Parce que j'étais toujours dans des super salles, et maintenant c'est moins le cas. Et donc j'ai remarqué qu'en fait le matériel est vraiment super important pour progresser. Mais si on a de la place et qu'on débute, un banc, des haltères, une barre suffisent largement, au moins pour une bonne année. Et après si on a de la place, bah continuer à s'équiper, donc une barre fixe, une poulie haute, une poulie basse, un repose-barre qui se règle en hauteur. Genre rien que ça, il y a déjà de quoi faire. Et après la presse à cuisse c'était vraiment parce que ça me plaisait particulièrement, mais déjà, donc il y a vraiment moyen de s'entraîner chez soi efficacement, surtout en progressant petit à petit. D'ailleurs, Mathieu, tu t'entraînes où, toi?
Ma première année, je l'ai fait chez moi, justement, et après, j'ai vu que c'était pas l'idéal pour moi, personnellement, donc je suis parti en salle, et je pense que c'est beaucoup mieux niveau concentration et tout, parce qu'on est vite attiré par l'ordinateur, par...
C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, justement, c'est l'inverse, en fait. Quand je suis chez moi... Moi, je reste dans ma séance, et vraiment, et il n'y a pas tout ce monde autour. Et après, ce qu'on peut reprocher au fait de s'entraîner chez soi, donc là, tu parles d'ordinateur, mais en fait, c'est qu'on est tout seul, et qu'on partage grâce au forum, alors que quand tu es en salle, et après, ça dépend des salles, hein, mais je sais que moi, j'essaie de mettre un peu d'ambiance, quoi, mais mais sinon, c'est vrai que normalement, tu partages avec les mecs qui sont autour, tu t'encourages mutuellement, et donc, dans la salle, en fait, normalement, il y a une meilleure ambiance, qui fait que ça te pousse un peu vers le haut, quoi. Mais après, donc t'es un peu moins concentré aussi si t'as bien discuté.
Ouais, puis moi, je vois quand je vais en salle, j'y vais un peu pour faire mon travail, ma séance et partir. Alors que quand on est chez soi, on est attiré par l'ordinateur, par d'autres choses, ça me perd un peu des objectifs et niveau temps de repos et tout, c'est beaucoup plus dur, je trouve, pour respecter.
Ouais, c'est marrant. Heureusement que t'es venu participer, ouais, j'avais pas pensé. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu cette tension, qu'en fait, quand je m'entraînais chez moi, je congestionnais tellement que je pouvais pas aller sur l'ordi, quoi. J'étais trop congestionné, je disais, bon, bah, je peux pas trop bouger, donc, Mais, ouais, donc, on en revient au même, en fait. Au départ, on s'entraîne chez soi, un petit temps, et après, à voir si ça nous convient, donc, personnellement, si on arrive à être sérieux ou pas, et voir après si on a la place pour s'équiper progressivement. Parce que sinon, il y a un moment, de toute façon, on va être limité, par le manque de matériel. Et donc, c'est efficace, à condition de s'équiper progressivement.
Voilà.
D'ailleurs, pour juste une dernière chose, par exemple, moi je me suis entraîné, donc pas un an, mais deux ans, donc en m'équipant progressivement chez moi, et après je suis allé en salle pendant deux ans, et après je suis retourné un an chez moi, pour m'entraîner, parce que justement, je parlais trop à la salle. Et j'étais moins concentré, et je suis revenu chez moi, et j'ai bien progressé chez moi, et après, bon, bah j'arrivais à me concentrer en salle, mais...
Tu t'es jamais concentré dans la musique ou quoi pour
En salle, non. J'aime pas trop ça, en fait. Je trouve que c'est assez asocial, même si on va pas à la salle pour être social. Mais ouais. C'est toujours bien d'arriver, qu'il y ait une bonne ambiance, et d'encourager le mec qui est à côté, et lui demander de l'aide si t'as besoin. Tu vois, j'aime pas trop ce caractère asocial des salles, et justement, je trouve que c'est ce qui divise un peu en musculation. Et donc, c'est pourquoi je crée maintenant, qu'à prochainement, le club superphysique, un peu. Pour lutter contre cette asocialité.
D'accord. Très bien. Alors, on va passer à la seconde question, c'est peut-on devenir fort à terme en n'ayant pas la base d'un flux court?
Donc, c'est vrai que ça, c'est une bonne question, parce que, donc là, quand on dit on n'a pas l'influx pour la force, en fait, c'est qu'on n'est pas explosif. on sent qu'on a, on essaie de pousser fort, mais ça part tout doucement. Donc, par exemple, j'aime bien l'exemple de Fabrice de la team, qui n'a pas l'influx pour être fort. Donc, par exemple, on voit que, il n'a jamais été explosif. Un coup, on avait couru ensemble, bah, il n'arrive pas à accélérer, c'est pas son truc d'accélérer, quoi. Alors, moi, par exemple, moi, j'ai l'influx à la base pour être fort. Je pousse super vite, je suis explosif, je suis nerveux. Et lui est moins nerveux, donc ça, tout de suite, ça, tu vois la différence, quoi. Donc, est-ce qu'on peut devenir fort si on n'a pas d'influx? Je dirais oui. Et donc, là, donc j'avais fait un article, donc c'est la semaine dernière, je crois. Ça s'appelle Muscles et Force, donc j'ai essayé de récapituler les facteurs de la force. Et donc, pour être fort, heureusement, il y a un... tout ne dépend pas de, du système nerveux, même si c'est une grosse partie. Ça dépend aussi des muscles. Et donc, normalement, à force de prendre du muscle, donc le muscle, en fait, c'est un potentiel de force qui suffit d'exploiter ensuite pour devenir fort. Donc, je prends l'exemple aussi, pareil, de Karim, qui est pas très explosif à la base, donc Karim de la team, mais qui, petit à petit, grâce à ses muscles, bah, devient fort. Donc Karim, c'est un mec, par exemple, il avait des cuisses énormes, et puis il faisait de la presse à 250, puis bon, bah, à force de me voir, et puis à force que je lui rentre dedans, que je le force à progresser, bah, il s'est mis au squat, et puis bon, bah, avec ses cuisses, je savais qu'il allait devenir fort. Et donc, petit à petit, bah, il progresse, et là, il en est à 10-150 au squat, et puis, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, quoi. Et pareil, on le voyait au coucher, pas explosif, mais à force de prendre des triceps, des pecs, des épaules, bah, ça pousse, quoi. Donc, oui, on peut devenir fort, on n'aidera pas le plus fort du monde, malheureusement. Ça, c'est sûr, si on n'a pas l'influx, si on pourrait être le plus fort du monde, faut avoir l'influx et les muscles. Donc, autrement dit, être super doué. Mais on peut devenir beaucoup plus fort, si on n'a pas l'influx, en passant par la prise de muscles. Et donc en s'entraînant petit à petit pour faire du muscle. Et donc après, si on veut faire de la force, une fois qu'on a une un potentiel de force grâce à tous ces muscles, c'est plus simple de devenir fort, même sans l'influx entre guillemets.
Et tu penses quoi du travail de pliométrie pour essayer d'améliorer l'explosivité?
Bah, j'y crois pas trop. Je sais qu'à une époque, c'est pas l'ex. Ça, disons, c'est l'entraînement de la vitesse après. On part là-dedans, par exemple, on sait que c'est assez récent, ça dure plus d'une dizaine d'années quand même, hein, mais pas mal de power de haut niveau, donc des powerlifters, de mecs qui font de la force, s'entraînent avec des élastiques pour gagner de la vitesse. On s'est aperçu que la force, à force de pousser lourd et lentement, même si on essaie d'aller vite, eh bien, on perdait de la vitesse. Et comme la vitesse est un facteur de la force aussi, donc là, c'est ce que j'appelle la fréquence de propagation d'un flux nerveux dans l'article.
D'accord.
Donc oui, ça va aider, mais... Encore une fois, la vitesse, c'est un paramètre très peu améliorable. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Donc, je crois que j'ai le seul qui existe. Donc, il s'appelle La vitesse de Gilles Cometti. Et donc, qui montre bien que la vitesse n'est pas un facteur très améliorable, indépendamment, donc tout seul. Donc, faire de la pliométrie quand on n'est pas explosif à la base, on va être un peu plus explosif. Donc, j'ai plus les chiffres en tête d'amélioration, hein, mais on va être un peu. Mais c'est pas comme la force qui peut. Tu peux multiplier par 3, 4, 5, 6, quoi. Suivant d'où tu pars. Alors que la vitesse, si tu gagnes 10-15%, ce sera déjà beau, quoi.
Ouais.
Ce sera déjà beau. Et après, donc voilà ce que j'en pense, quoi. Mais après, donc oui, on peut devenir fort si on n'est pas explosif à la base, grâce à ses muscles.
D'accord.
Donc, je vous rappelle, donc comme vous avez le droit de participer au podcast, et que vous n'avez pas à être intimidé à me proposer votre participation, vous avez le droit de poser votre question durant le podcast. Et donc Mathieu avait une question personnelle à me poser.
Alors en fait, moi, ça fait 2-3 semaines que je tacle sur mon cycle au curl incliné. J'ai beau avoir mis du red pause ou essayer de me donner un peu moins sur les séries, soit ça chute de la première série, soit il n'y a aucune progression, quoi.
Donc, qu'est-ce que tu fais actuellement au curl incliné, Mathieu?
Alors, c'est mon second exo au biceps, et là, je suis à 14 répétitions au curl incliné sur 4 séries.
Ok, quel est ton premier exercice de biceps?
Curl bar.
Curl bar, tu progresses sur le curl bar?
Ouais.
À chaque séance?
Chaque séance, ouais.
T'es en série de combien au curl bar?
Là, je suis en série de 12.
De combien, tu dis?
En série de 12 à 41 kilos.
Ok, donc c'est pas mal. Et donc, avant, tu m'as dit que tu faisais du curl incliné aussi, donc il était toujours en deuxième exercice avant?
Non, je le mettais en premier, et comme j'ai changé mon organisation, parce que je congestionnais même plus sur le curl incliné, je l'ai passé en second, et en troisième exo, j'ai du curl marteau, où là je progresse aussi, mais pas sur le curl incliné.
Et lors de ton précédent cycle au curl incliné, tu as fini à combien?
J'ai fini à 16 kilos et j'en faisais à peu près pareil, 14-15. Ça montait toujours pas, quoi.
Ok, donc t'as toujours bloqué à ça, en fait.
Voilà, c'est ça.
Et avec la charge précédente, t'es monté jusqu'à combien de répétitions?
À mon curl incliné?
Ouais.
14 aussi.
Non, tout à l'heure tu m'as parlé de 14 kilos en série de 18, avant de passer à 16.
C'est ça.
Donc,
14 kilos, je suis monté à 18 et là j'ai augmenté de 2 kilos.
Donc récapitule, hein. Je récapitule ce que tu m'as dit. Donc tu fais le curl incliné en deuxième exercice. T'es bloqué à 14 reps à 16 kilos.
Voilà.
Donc avant tu faisais le curl incliné en premier exercice, mais tu étais bloqué aussi à ce niveau-là.
Ouais.
Et avant de monter à 16, c'était en série de 18 à 14 kilos.
Voilà.
On est ok. Donc, je vois plusieurs solutions. tu fais une seule poly biceps par semaine?
Ouais.
Ok. Tu t'entraînes combien de fois par semaine aussi?
4 fois.
4 fois? Ok. Donc, ce que je vois, tu fais le dos quand?
Le dimanche.
Et les biceps?
Le jeudi.
Ouais, donc ça, pas de souci. Donc il y a 2 solutions. Donc c'est très simple. Donc moi, en général, j'aime pas monter les charges tant que j'ai pas atteint un chiffre rond. Donc c'est un peu superstitieux. C'est un peu le truc. Donc par exemple, tu vois, 14 kilos, ben, je serais monté jusqu'à 20 répétitions avant de monter.
Ouais.
Donc voilà le premier truc que je te dis. Soit, là, comme ça coince, t'as trop de redescendre à 14 kilos, et donc par exemple de repartir à 16 ou 17 répétitions et de monter jusqu'à 20 reps. Donc ça peut être une piste.
Ça me fait travailler à 14 kilos sur des séries assez longues ou quoi?
Voilà, ça te fait faire du plus long. Mais comme, c'est pas gênant parce que... C'est pour ça que j'ai posé la question sur le curl bar. Ton curl bar est en 12 reps. Donc on aurait pu penser que tu faisais du curl bar aussi en série longue, juste avant. Et dans ce cas-là, bon, t'étais cramé pour le curl incliné, c'était normal que ça progresse pas.
D'accord.
Donc moi, je pense soit tu repars en série longue à 14 kilos pour monter jusqu'à 20 répétitions, ou soit, mais je crois que tu t'entraînes en salle, donc c'est pas possible. Au lieu de passer de 14 à 16 kilos, tu peux passer par l'étape des 15 kilos.
D'accord.
Et donc, est-ce que tu peux faire ça, monter à 15 kilos?
Oui.
Et ben voilà, tu vois, le mieux vaut, en fait, monter petit à petit, tout doucement, que d'essayer de faire un gros bond, même si là, de 14 à 16 kilos, ça fait quoi? Ça fait 15% d'augmentation. C'est pas énorme, surtout que t'es reparti à 8 répétitions, tu m'as parlé tout à l'heure.
Ouais.
Donc, soit tu repars à... Attends, une connerie. Soit tu repars à 14 kilos.
D'accord.
Donc, en série, en montant jusqu'à 20. Soit tu passes à 15 kilos, et donc tu repars avec ton cycle actuel, 4-14, et après bah, tu montes progressivement, donc jusqu'à 20. Donc je pense que c'est les deux bonnes solutions. Après, tu fais combien de séries au curl bar?
4.
4 aussi au curl incliné, et combien au marteau?
4 aussi.
Ouais, non. Le curl marteau, t'en fais beaucoup. Et le curl marteau, il progresse aussi?
Ouais. Il y a tous les exercices qui progressent. En fait, le problème, c'est que si j'en fais 2, comme c'est marqué sur le site, j'ai l'impression de jamais progresser ni de travailler les biceps, quoi.
Ouais, mais après, tu sais bien ce que j'en dis, hein, c'est la progression à chaque séance qui compte, hein, c'est pas l'état de fatigue du moment. L'état de fatigue du moment n'est qu'une impression. Donc voilà ce que je te conseille, quoi. Soit tu repars à 14 kilos, tu finis un cycle en montant un peu plus long. C'est quelque chose que j'aime, par exemple, bien faire aux épaules, sur des petites charges où je fais vraiment monter en série très très longue, parce que l'augmentation est... Par exemple, quand tu passes de 4 à 6 kilos, ça fait 50% de plus, donc t'es obligé de monter un peu plus long pour gagner un peu plus de force. Ou soit, bah, tu montes que d'un kilo, et dans ce cas-là, je pense que ça va se débloquer, quoi. Si tu montes que d'un kilo, ça va aller tout seul.
D'accord. Et parce qu'en fait, si je progresse, en fait, je progresse que sur la première série, la seconde, elle va chuter automatiquement.
Et bah, rien ne t'empêche, alors, de, comme je te dis, de monter vraiment progressivement. Au lieu de monter sur 4 séries à la fois, tu montes que sur une à la fois.
D'accord.
Tu peux monter que sur une à la fois, quoi. Après, il n'y a rien de... Il n'y a pas vraiment de règle qui te dit que tu dois progresser sur les 4 séries en même temps. C'est sûr qu'il y a un moment, tu vas pas... Moi, je me rends compte aussi, hein. Il y a un moment, tu peux pas progresser sur toutes les séries partout.
Ouais.
Donc, si tu progresses, si tu fais un peu mieux, mais rien qu'un tout petit peu mieux à chaque fois, bah, c'est cool, quoi.
D'accord.
C'est cool. Ça répond à ta question? Tu penses que tu vas avoir des biceps?
J'espère.
Bon, bah, c'est cool, bah, tu me tiendras au courant, de toute façon, tu me diras
si
ça a marché, quoi. Donc voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast. Donc, merci Mathieu, d'avoir participé au podcast. Donc, je vous rappelle que vous n'avez pas à être intimidé et que vous pouvez venir participer au podcast. Donc, en m'écrivant aussi bien sur le forum Superphysique que sur Facebook ou que par email. Et donc vous pouvez toujours poser vos questions donc dans la rubrique entraînement du forum, donc dans le sujet tout en haut, où il y a marqué questions pour le podcast Superphysique. Donc il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre chaque semaine. Donc voilà, donc merci Mathieu, et puis merci, bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.